la gestion du stress parental chez des parents d'enfants qui souffrent du syndrome de Dravet. Pour en parler, nous avons donc, si je ne me trompe pas, Élodie, tout au bout, c'est pour vous situer, parce que ça, le public n'arrivera pas à voir vos
poumons.
Élodie et Nathalie, qui est ici, à côté, à la gauche de Jean-Claude, qui sont toutes les deux de l'Alliance Syndrome de Dravet, une association française, et qui sont aussi mamans d'un petit garçon pour Nathalie et d'une petite fille pour Élodie, tous deux atteints du syndrome de Dravet. Et puis, au milieu, nous accueillons Tamara Leonova, qui est chercheuse à l'Université de Lorraine. Et à ma gauche, Jean-Claude Amezen nous a rejoint. Il est donc président d'honneur du comité éthique et scientifique de la FIRA. Voilà, merci à tous les quatre d'être là. Alors, je le disais, le syndrome de Dravet, c'est une forme très sévère d'épilepsie infantile. Ça peut apparaître dès 5 mois chez le nourrisson. C'est une maladie rare, très peu connue, une maladie orpheline. Je crois que l'une de vous l'avait qualifiée ainsi. On va peut-être commencer par expliquer quel peut être l'impact de ce syndrome de Dravet sur l'enfant et quelles sont les conséquences sur les parents. Alors, c'est deux questions un peu courtes et une réponse qui va être sûrement plus complexe. Mais du coup, des deux côtés, quels sont l'impact et les conséquences que ça va avoir? Qui veut se lancer? Est-ce que les mamans veulent démarrer?
Alors, je vais bien Elodie. Commencer.
On commence par le syndrome.
Vas-y.
Vous avez toutes des micros, normalement. Ouais. Est-ce qu'il
ça
marche?
Oui. Donc le syndrome de Dravet, c'est pas qu'une épilepsie en fait, donc c'est une maladie rare. Il y a à peu près 350 personnes qui en sont atteintes en France. Ça touche les enfants, mais qui seront un jour des adultes. C'est effectivement tout d'abord une épilepsie qui apparaît dès l'âge de 6 mois de l'enfant. Donc c'est un enfant qui à la naissance est tout à fait ordinaire, qui a aucun trouble particulier, et qui à l'âge de 6 mois, plus ou moins 2 mois, va commencer à avoir une crise d'épilepsie extrêmement sévère. Et c'est une épilepsie donc, qui est à la fois donc précoce, puisqu'elle apparaît dans la première année de vie, et qu'elle ne cessera pas. C'est une épilepsie qui est sévère, puisqu'elle entraîne ce qu'on appelle des états de mal, qui sont difficilement contrôlables, et qui sont récurrents. Et puis c'est une épilepsie qu'on va dire pharmacorésistante, parce que malgré les antiépileptiques, l'épilepsie continue. En fait, les traitements ne servent, heureusement qu'ils sont là, ils servent à diminuer la sévérité et l'intensité des crises, mais n'arrivent pas à traiter complètement les crises. Il faut savoir qu'il y a 92% de nos enfants qui ont au moins 3 molécules antiépileptiques. Donc
tous les jours.
Tous les jours, matin, midi et soir. Donc voilà, il y a toute une problématique par rapport justement au traitement. Donc peut-être qu'Élodie continuera avec ça. Et la deuxième chose, c'est qu'à partir à peu près de la deuxième année de vie de l'enfant, on va avoir d'autres troubles apparaître. Un retard de développement, des troubles des acquisitions, et puis des troubles du sommeil, des troubles de l'attention, des troubles de l'équilibre. Les enfants ont beaucoup d'ataxie, des troubles du langage, ce sont des enfants qui sont très très peu verbaux, des troubles du comportement, et puis aussi on a à peu près 60% des enfants qui ont des troubles du spectre autistique, et donc toute la problématique de l'autisme qui va se rajouter à la problématique de l'épilepsie. Voilà.
Oui, on le voit, c'est pas juste une petite crise d'épilepsie. Juste un petit mot, si vous voulez bien, gardez bien le micro devant vos bouches quand vous parlez. Ça, je le dis pour notre partenaire média Vivre FM, ça permettra de pouvoir bien vous réentendre après en podcast à la radio. Voilà, merci. J'aurais dû le préciser avant, toutes mes excuses. Élodie, vous vouliez ajouter un mot sur les impacts chez l'enfant, ou peut-être nous expliquer quelles vont être du coup les conséquences du syndrome de Dravet chez les parents, chez les proches?
Alors les conséquences déjà chez l'enfant, c'est donc une vie qui est différente. L'enfant doit donc prendre des médicaments plusieurs fois par jour. Donc les médicaments, c'est pas bon. Et un enfant qui a des troubles du comportement, qui s'oppose, ne veut pas prendre ses médicaments. Donc chez le parent, ça entraîne un stress assez important de se dire, bah, s'il prend pas ses médicaments, il va faire des crises. Et comment je force un enfant qui ne veut pas prendre ses médicaments? Les médicaments engendrent aussi des effets secondaires potentiels qui peuvent être importants. Des enfants qui ont déjà des troubles de l'appétit, certains médicaments leur donnent comme effet secondaire le même. Donc c'est difficile d'adapter. On essaye plusieurs médicaments, donc ça c'est assez compliqué de trouver le bon médicament. Donc c'est des hospitalisations, c'est donc des ruptures avec la cellule familiale, des ruptures avec son milieu professionnel. Les amis, c'est difficile de les voir quand, dès qu'on arrive chez quelqu'un, avant de partir, bah, finalement on ne vient pas parce que le petit a fait une crise, enfin, ou le grand hein, a fait une crise d'épilepsie. Donc on a toute une sorte de différence par rapport à d'autres parents qui n'ont pas d'enfants atteints du syndrome de Dravet, qui font qu'on ne peut pas vivre comme on aimerait vivre. Que ce soit pour l'enfant, qui veut faire les mêmes activités que les autres, mais qui n'en est pas forcément capable, qui se rend compte de ses difficultés, et qu'il a du mal à dépasser, évidemment.
Voilà. Et donc, c'est effectivement pour vous, en tant que parent, un retrait de la vie sociale aussi. C'est, du coup, tout ce stress. Le stress, c'est la conséquence, l'impact numéro un pour vous. C'est un peu pour venir à pourquoi cette idée de faire une recherche sur le stress parental. Est-ce que c'est quelque chose qui déjà existait dans certaines recherches? Je ne crois pas. Je crois qu'il y avait très peu de choses sur le sujet. Peut-être que Tamara pourra nous en dire un mot.
Donc, pour introduction, le sujet vient du fait qu'un jour, j'ai découvert l'appel projet de la Fondation des maladies rares, SHS. C'est-à-dire, pour la première fois, je voyais que la Fondation des maladies rares, qui en général lance les projets pour les médecins, lançait le projet pour les sciences humaines et sociales. Effectivement, ça m'a attirée. Et puisqu'en même temps, je travaillais avec un groupe de chercheurs sur l'épilepsie en général chez les enfants, sans être rare, j'ai regardé. Est-ce qu'il y a quelque chose de rare pour éventuellement approfondir le domaine qui m'a été déjà un peu familier? En approfondissant, je suis tombée sur le syndrome de Dravet parce qu'ils étaient le syndrome le plus rare de tous les rares. À l'époque, je ne savais pas encore qu'il ne faut pas toucher au plus rare de tous les rares, parce que index H de citation ne peut que souffrir. En tant que chercheur, je deviens de plus en plus nul. Mais vu mon âge, il n'y avait pas de danger. Et donc, j'ai choisi ce sujet parce que je me suis posé la question du psychologue social que je suis, pas clinicien, que ça ne va pas, qu'ils doivent souffrir, qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau d'anxiété, dépression et autres dimensions psychologiques. Mais je me suis positionnée en tant que psychologue sociale. À la différence des psychiatres, les psychologues que nous formons, les futurs professionnels, ils sont là pour aider, pour que ça ne se dégrade pas, pour aménager l'espace et, de ce point de vue, transformer la personne en situation de handicap et sa famille en personne et famille qui se rapprochent au maximum à ceux qui ne sont pas en situation de handicap. C'est-à-dire, c'est la société, l'action sur la société qui doivent être menées pour pouvoir, après, aider les familles et aider les aidants. Donc, voilà, au total, 3 publications dans le monde consacrées aux familles de syndrome de Dravet. Et à ma grande surprise, et là je suis tombée des nues, parce que à la différence du syndrome de Dravet, l'épilepsie, c'est une pathologie neurologique parmi les plus répandues chez les enfants. Mais au total, il n'y a que 13 publications scientifiquement bien, méthodologiquement parlant, qui existent. Donc, ce qui montre que c'est un champ qui n'est pas du tout exploré. Sans parler que la majorité des recherches portent sur le stress, sans porter sur les stratégies de résistance au stress, ce qui manque aussi de cohérence. Donc, d'où l'idée de conduire le projet sur le stress parental, sur cette population, comme prototype, comme tout ce qui peut être condensé quelque part dans l'infiniment petit pour aller ensuite vers l'infiniment grand, qui est pour moi le groupe de comparaison dans cette étude, qui est l'autisme. 300 familles, syndrome de Dravet, 600 000 personnes qui sont touchées avec l'autisme. Donc la recherche des invariants, la recherche de spécificités dues à cette maladie, et ensuite l'expérience de ses parents, comment ils vivent, non pas comment ils existent, comment ils survivent, mais comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils font découvrir en eux-mêmes, dans la société, pourquoi le handicap, c'est à la fois la tragédie et la chance, comme dit Julia Kristeva. Donc la tragédie, tout le monde le voit. Je voudrais découvrir quelle est la chance de ces familles et pouvoir partager ça avec d'autres familles. Voilà.
Alors c'est pour ça que l'objectif de votre... L'objectif de la recherche est double. Vous allez explorer le stress parental et concevoir un programme psycho-éducatif et pour accompagner les parents. comment vous allez concrètement organiser un processus de recherche, comment vous allez organiser le cadre scientifique de la recherche et pour répondre à ces attentes que vous avez.
Donc c'est plus que double, j'ai envie de dire que c'est triple. C'est un projet qui est très ambitieux justement parce que le FIRAC fait une attention particulière sur la valorisation et action concrète des résultats de la recherche sur le terrain. Donc l'objectif, c'est aider effectivement les familles, ensuite former les professionnels à cette maladie rare, à la prise en charge de ces familles et de ces enfants, et troisième point, c'est éduquer la société à la différence, c'est-à-dire produire aussi un film dans le style de spot publicitaire, mais qui permet de transformer l'épilepsie de cette maladie qui fait peur, et qu'on associe plutôt aux sorcières du Moyen-Âge, à ce qu'elle est actuellement dans la recherche en neuropsychologie, par exemple, où on arrive à entrer dans le cerveau des personnes, où on arrive à avoir les connaissances à la pointe du progrès sur le fonctionnement du cerveau grâce aux opérations qu'on prépare sur les sujets qui sont pharmacorésistants. Donc, voilà, c'est l'action sur l'éducation de la société et aide aux parents en même temps. Concrètement, ce projet, après avoir reçu le financement de la FIRAC, va se réaliser à travers de la plateforme qu'on pourrait créer sur le site de l'Université de Lorraine pour protéger les données, parce que bon, le problème se pose actuellement de plus en plus. Ce site, cette plateforme permettra entrer en contact et surtout recueillir les données des familles qui sont en France, dans différents coins de France, au Québec, en Belgique francophone, en Suisse francophone, germanophone et en Belgique flamande. Donc à ce moment, nous sommes en contact avec ces associations et avec ces pays-là. Donc le fait qu'Internet existe, que le monde virtuel existe, ça nous aide énormément pour élaborer le projet qui est pluridisciplinaire, international et à la fois accessible pour la francophonie. Et j'ai prévu aussi les traductions et le travail avec ceux qui sont dans d'autres langues. Parce que peut-être ils ont d'autres expériences et qui peut être riche pour nous.
On sent que vous êtes bien tombée avec Tamara. Nathalie, Élodie, un mot aussi de vous, vos attentes et comment vous percevez votre implication dans ce projet de recherche. Si ça ne vous inspire pas, je peux changer de question. Non, mais vos attentes en tant que parents qui vivaient du coup ce stress parental et les stratégies que vous avez peut-être déjà mis en place de résistance, Tamara le disait, de résistance au stress.
Comment vous allez pouvoir... On résiste bien puisqu'on est là.
Comment vous allez les échanger, les partager et faire avancer ce projet de recherche?
La première chose, c'est déjà de savoir que quelqu'un s'intéresse à nous. Alors, je le dis simplement, de savoir qu'on peut manifester du stress, ça semble absolument logique. Hein, voilà, c'est... Mais qu'un chercheur vienne nous solliciter pour être étudié, entre guillemets, bah, c'est super, parce qu'en fait, cette étude, elle est assez transversale. Elle permet d'aider directement les parents, l'enfant, et puis toute la sphère, la fratrie, la famille et la société par extension. Donc, voilà, vivre dans une société plus aidante, c'est déjà un point très positif. Donc Tamara va nous interroger. Donc nous, en tant qu'association Syndrome de Dravet, évidemment, on a un panel d'adhérents. Donc on va pouvoir proposer à Tamara tout un panel de personnes qui vont pouvoir répondre à ces questions. On va suivre cette étude, faire en sorte que chaque personne puisse s'exprimer selon les critères d'inclusion de l'étude de Tamara. Suivre ce projet et puis ensuite attendre des résultats. Donc déjà, la première chose, ça va être les constats. Que va constater Tamara? Donc ça nous intéresse. Parce que nous, on vit chacun des expériences, on discute entre parents dans l'association, mais on s'aperçoit qu'on a tous des stratégies d'adaptation différentes, mais qui sont complémentaires. Et que quand on peut en discuter tous ensemble, finalement, on arrive tous à faire de belles choses. Et de transformer, d'apprivoiser la réalité du handicap et de la transformer en quelque chose de plus joli, plus facile à vivre.
Nathalie, même si Élodie a très bien défendu le sujet, Un mot aussi, peut-être, non, sur vos attentes en tant que parents, en tant que... Non, sur les pères, on n'a rien à dire. Bon, très bien. Tamara le disait tout à l'heure, ce qui est intéressant dans ce projet de recherche, c'est que ça va ouvrir, bien évidemment, bien au-delà des 350 cas dont vous parliez d'enfants atteints du syndrome de Dravet. C'est assez effarant d'entendre le peu de publications scientifiques, le peu de projets de recherche qui ont concerné le sujet. Est-ce que ça, c'est une spécificité française, ici, d'être un petit peu en retard aussi, de ne pas avoir creusé le sujet? Comment vous expliquez ce peu d'intérêt, en dehors, on l'a vu, hein, du faible nombre, entre guillemets, de personnes concernées par le syndrome de Dravet, mais de l'intérêt que ça peut avoir par ailleurs?
Ça s'explique par l'état de la science actuelle, c'est-à-dire c'est la science du clonage, c'est la science des performances, c'est la science où, si on s'intéresse à quelque chose qui est rare, vous pouvez imaginer combien de personnes vont lire mes publications, donc autrement dit mon indexage, c'est-à-dire de citations dans Internet, il ne va pas grimper. Et je serai toute rouge, toute petite et très handicapée face à mes collègues qui vont publier parce qu'ils sont sur les populations de 800 étudiants en psycho, je ne sais pas, même sur l'autisme, 600 000 personnes, c'est beaucoup plus large. Il y a énormément de publications sur le stress parental dans le cas de l'autisme. Alors pourquoi, alors qu'il y a autant, 600 000, entre 430 et 600 000 touchés par l'épilepsie, il n'y a pas de personne qui travaille sur ce sujet? Je ne sais pas, énigme. Mais toujours est-il que voilà, l'explication est dans la science performante, et pour être performant, il faut être très... il ne faut pas être handicapé. Donc moi, je suis handicapée, j'ai envie de dire, de plusieurs points de vue, j'intégrais trop tard la société française, donc je les accumule, les handicaps, c'est trop tard de penser à ma carrière, à mon titre de professeur exceptionnel, je ne sais pas quoi encore, qui existe dans l'université française. Je peux prendre le risque. Et la question que je me pose, c'est à quoi ça sert la science? Et si je choisis cette carrière du scientifique, c'est parce que dans mon pays d'origine, qui est l'URSS, on m'a appris que la science sert à ouvrir, non pas à cloner, mais à ouvrir de nouvelles voies. Les nouvelles voies, c'est la prise du risque.
L'URSS, la Suisse, j'étais pas loin, hein, pour l'accent. Jean-Claude, peut-être une impression sur ce que vous venez d'entendre. Vous connaissiez déjà le projet de recherche, vous faites partie, je le disais, du comité éthique et scientifique de la FIRA. Vos impressions sur ce que viennent de dire nos intervenants?
Non, je ne fais plus partie du comité. Je suis président d'honneur. Donc, je trouve ça extrêmement important. Je trouve ça aussi bouleversant. Et je crois que la question, il y a un autre projet que j'ai vu apparaître, hein, sur la prévention de l'épuisement des aidants. Je crois que Et peut-être que les études internationales que vous allez faire montreront dans le stress, dans la difficulté, il y a ce que vous évoquiez qui est déjà la solitude. Et donc la première forme de solidarité, c'est de ne pas être seul. Même si ce n'est pas une aide concrète, c'est de savoir qu'on peut se réunir, c'est savoir qu'on peut être... on peut intéresser d'autres, on peut être... Bon, et ça, je crois que c'est extrêmement important. Et je pense qu'il y a des sociétés dans lesquelles cet isolement... où cet abandon est moins grand. Donc il y a déjà cette aide-là, ne pas être seul. Et puis on a, et Axel Kahn le disait tout à l'heure, on a l'impression dans notre pays qu'au fond, il n'y a pas besoin d'aider les aidants. Il y a des pays comme la Suède, où la famille, ce n'est pas les aidants. La famille, c'est les aidants affectifs, c'est les aidants... comme une famille aide un enfant ou un parent ou une femme ou un mari. Et si ma mémoire est bonne, en Suède, si une personne de la famille veut aider, mais aider au sens d'un aidant professionnel, elle doit se déclarer, recevoir un salaire. Pour que, dit la législation suédoise, il n'y ait pas de confusion dans l'esprit entre ce qu'est une aide familiale et ce qu'est une aide professionnelle. Et on a tendance dans notre pays à considérer qu'un membre de la famille, c'est à la fois un aidant familial, c'est à la fois un aidant affectif, c'est à la fois quelqu'un qui a un rapport émotionnel profond avec une personne, et c'est en même temps un professionnel qui se substitue. Et donc il y a quelque chose d'assez tragique, parce que je pense que le risque, et ce dont vous témoignez est tout à fait remarquable, c'est que si on devient aidant professionnel, on cesse ou on risque de cesser d'être aidant familial. Et donc à tout vouloir confondre, on risque de perdre ce qu'il y a d'essentiel. Donc je crois que mettre l'accent sur le stress, sur la difficulté, sur la façon qu'il y a de pouvoir s'adapter au mieux possible, implique aussi une solidarité. C'est-à-dire au fond de réaliser qu'on ne peut pas tout faire soi-même. Et que donc si on veut véritablement diminuer le stress, les difficultés des parents, en l'occurrence que vous êtes, eh bien, il faut que la société puisse aussi apporter une aide sous des formes diverses. Et comme vous le disiez, la première aide, c'est déjà qu'une recherche essaye de comprendre et de proposer un certain nombre de solutions. Donc je pense que c'est vraiment majeur. Vous disiez peu de personnes. Je voulais juste vous rassurer, hein, la science et l'histoire de la science est emplie de découvertes extraordinaires et célébrées qui se sont faites à partir de problèmes qui étaient rares ou qui touchaient peu de personnes. Donc je crois que ce qui est important, c'est l'importance de la recherche, c'est la qualité avec laquelle elle est menée. Et je crois que c'est vraiment un projet important. Maintenant, dans l'esprit de la FIRA, que rappelait Axel Kahn, c'est d'autant plus important que vous êtes, vous, parents et associations de parents, des partenaires à part entière. C'est pas un projet construit dans lequel on vient ensuite demander à des associations si par hasard elles voudraient participer. C'est vraiment un projet de partenariat à part entière. Je crois que c'est extrêmement important. Et la deuxième, c'est la dimension internationale. La troisième, c'est le fait que vous plongez dans la difficulté d'une situation particulière, le syndrome de Dravet, les enfants atteints de syndrome de Dravet, et vous le comparez à une autre situation. C'est-à-dire que vous voyez à la fois, comme vous le disiez, ce qu'il y a de spécifique, de singulier, de particulier, et en même temps, ce qu'il peut y avoir de général, ce pourquoi d'autres solutions qui ont été testées et qui seront appliquées à d'autres encore. Juste un petit point, parce que ça m'avait interrogé. Vous dites dans le projet que les familles auxquelles vous demandez de participer sont, ce qui est très bien, des familles composé d'un père et d'une mère, que ça soit des familles d'enfants atteints de syndrome de Dravet, que ça soit des familles d'enfants avec autisme. Et je me disais que c'est très bien, mais que, au fond, avoir déjà un père et une mère, c'est déjà le signe d'avoir surmonté une partie du stress. Parce qu'en ce qui concerne l'autisme, je ne sais pas ce qu'il en est au niveau du syndrome de Dravet, le stress de la naissance d'un enfant atteint de handicap avec autisme est telle que souvent il entraîne la rupture du couple parental. Et donc la mère se retrouve le plus souvent, enfin dans ces cas-là, seule avec l'enfant. Et donc je me disais que c'est très bien de prendre des familles dans lesquelles il y a un père et une mère. Mais il faudrait sans doute à un moment envisager une comparaison avec des familles dans lesquelles la mère est seule. Parce que je suppose que les difficultés, le stress, l'exclusion et tous les problèmes qui se posent sont encore plus grands. Et que donc des solutions qui auraient été mises en place pour des couples pourraient se révéler insuffisantes ou en partie inadaptées en ce qui concerne les mères seules. Donc je trouve que vous commencez très bien, mais je pense qu'en arrière-plan, je me disais, une des applications, c'est pas seulement d'autres... Ouais. Handicap chez des enfants et donc d'autres familles confrontées à ce stress. C'est aussi sans doute des familles monoparentales dans lesquelles le stress va se manifester sous des formes encore différentes. Mais je trouve que c'est vraiment un projet remarquable. C'est un projet important et c'est un projet, je crois, qui est tout à fait, en tout cas tel que je l'ai toujours compris, qui est tout à fait emblématique de l'esprit dans lequel la FIRA souhaite et a souhaité développer ses projets.
Un mot peut-être, Tamara, justement sur ces...
Oui, je voudrais effectivement rebondir. Vous avez tout à fait raison que ce n'est pas le même stress. La majorité de la recherche dans le monde qui existe sur le stress parental ne concerne que le stress maternel. Dans le cas des familles qui sont les couples, mais que le stress maternel. Et donc, effectivement, moi, en tant que grand idéaliste, je suis allée avec ce critère, sans savoir encore où je mets le pied, père et mère. Maintenant, quand j'ai commencé depuis le mois de septembre à travailler sur le groupe contrôle, c'est-à-dire les familles avec les enfants en bonne santé, et que je vois le problème avec les pères, j'ai compris que je touche mission impossible. C'est-à-dire, oui, à ce moment, nous sommes en train de travailler les familles avec les enfants autistes, avec 10 coups de fil pour obtenir l'accord du père, qui est toujours présent. Donc, on commence à comprendre à quel point c'est difficile d'atteindre les pères. Et pour moi, ça devient presque une question métaphysique. Quel est le rôle du père et de la mère dans notre société ? À quoi sert le père ? Pourquoi, alors qu'il y a le stéréotype d'un homme fort qui prend sur ses épaules tout, qui protège sa famille. Dans la majorité des familles, dès qu'il y a le handicap, les pères disparaissent, leur rôle diminue, ils fuient. Donc ce que je voulais, je ne sais pas si je vais y arriver, et peut-être ce sera le roman que je vais écrire et pas le rapport technique de recherche, mais d'attraper ces pères dans leur fuite psychologique ou psychique, je ne sais pas laquelle, et de leur demander pourquoi vous fuyez, qu'est-ce qui vous fait peur ? Est-ce qu'on peut vous aider ? Expliquez pourquoi vous abandonnez la famille où il y a la mère qui reste avec un enfant, parfois avec deux enfants qui peuvent être en situation de handicap, et surtout comment vous pouvez vivre après ? Parce que je pose cette question non pas comme psychologue clinicien, je ne le suis pas, mais comme psychologue social. Il y a la dissonance cognitive qui doit apparaître entre le comportement et le principe qu'on ne lâche pas son prochain, qu'on n'abandonne pas sa famille. Et donc, cette dissonance cognitive doit empêcher chaque jour au père de regarder droit dans ses yeux, dans la glace. Et là, j'ai envie de comprendre comment ils gèrent tout ça, les pères. Voilà.
Non, je voulais juste rassurer les hommes et les pères qui sont présents, que tout va bien quand même, hein, les papas sont là, dans certaines familles.
On avait fait une étude et en fait, il n'y a pas plus de divorce dans le syndrome de Dravet, enfin, dans les parents de syndrome de Dravet que dans la population générale. Hein.
D'accord. Et peut-être c'est ça ce qu'on va conclure, que quand c'est vraiment super sérieux, peut-être le handicap sert, non ? Les liens renforcent, je ne sais pas, parce que dans d'autres handicaps, on trouve, je travaillais sur la dyslexie avant, c'est catastrophique, alors qu'il s'agit seulement de la dyslexie.
Ça, c'est les stratégies d'adaptation au stress. Chacun est différent en fonction de différents critères. Donc. Et puis... donc j'ai perdu le fil de ma pensée, mais
les papas sont là et donc ils résistent bien. Donc autrement dit, plus la pression est forte de la maladie, plus on peut s'attendre que ça renforce les liens au sein du couple.
Un dernier mot,
en tout cas.
Oui, je voulais juste dire, cet aspect aussi est intéressant au niveau international, hein, c'est-à-dire en fond, en quoi ces comportements individuels qui semblent ressortir de la personnalité de chacun ont aussi une relation avec la culture d'une société.
La littérature mondiale est aussi sur le handicap, les pères disparaissent.
Quels que soient les pays.
Ben, les anglo-saxons et le reste du monde qui ne produit pas trop.
Et sur les maladies chroniques, c'est la même chose, hein ? Sur les maladies vraiment sévères ou
Sur les maladies chroniques, je ne peux pas vous dire, parce que moi, j'ai vu sur la dyslexie, oui,
mais
et
voilà, c'est
sur
pas
l'autisme.
Mortel,
voilà.
Ouais. Alors, il y a peut-être aussi... il y a peut-être aussi l'idée que l'on se fait, vous parliez tout à l'heure des visions moyenâgeuses, il y a peut-être aussi l'idée que l'on se fait du handicap, et donc la représentation que l'on se fait de l'enfant avec handicap. Est-ce que c'est la nature même des problèmes qui se posent, ou est-ce que c'est l'idée que l'on se fait de ce qu'est ce handicap et de la difficulté qu'il y a à le confronter. Donc là aussi, peut-être qu'il y a une dimension culturelle, c'est peut-être pas simplement, mais ça vous le verrez, la situation particulière de l'enfant, mais ce qu'on en pense, ce qu'on imagine, les représentations qu'il y a, le regard des autres, hein, le regard des autres, le regard de ceux qui entourent, le regard de la société.
Tout à fait, toutes ces facettes seront explorées. Oui.
Merci, merci à tous les quatre. Et je, évidemment, on pourrait lancer le débat sur, en plus, les familles avec deux papas, deux mamans, mais malheureusement, il est 18h56, on va proposer à d'autres invités de nous rejoindre.
Donc, merci. Bonne chance.
Un mot aussi, vous recherchez encore des financeurs ou c'est bouclé au niveau des financements? J'avais comme info que voilà, s'il y a des gens dans la salle.
Nous avons eu vraiment la chance de boucler pour cette réunion par le projet du CNRS qui a aussi qui est financé et la Maison des sciences de l'homme de l'Université de Lorraine. Donc merci beaucoup, vous étiez la main verte pour ce projet.
Merci.
Je remercie la FIERA. Merci.